Partie 6. Comparons les régimes. D'après les études, près de la moitié des adultes nord-américains tendent à perdre du poids à chaque année. Et comme vous le savez maintenant, du moins je l'espère, l'une des meilleures façons pour perdre du poids est certainement la symbiose d'une vie plus active avec une alimentation plus saine. Cependant, vivant dans un mode où l'information est de plus en plus bipolarisée, le grand nombre de régimes disponibles peut rendre difficile le démarrage et l'atteinte de nos objectifs. Votre question sera probablement « Quel régime est le plus approprié, le plus durable et le plus efficace pour moi? » Comme nous l'avons vu, certaines alimentations visent à limiter votre appétit pour réduire votre apport alimentaire, tandis que d'autres suggèrent de limiter votre apport en glucides et en calories, alors que d'autres misent plus sur la qualité des aliments que la limitation d'une quelconque manière. De plus, certaines de ces alimentations offrent des avantages pour la santé qui vont nettement au-delà de la perte de poids. Si j'ai bien fait mon travail à ce stade, vous devriez déjà avoir une idée de l'alimentation dont vous aimeriez opter selon votre situation et vos objectifs actuels. Sinon, ne vous en faites pas, nous y reviendrons dans la partie 7. Dans ce chapitre, nous allons résumer et comparer les différents régimes et voir plus précisément en quoi chacun de ceux-ci se compose. Cela vous donnera un meilleur aperçu de chaque alimentation en matière de proportions de macronutriments, d'aliments permis versus ceux interdits, les pour et contre majeurs ainsi que les différentes philosophies. Êtes-vous prêt? Comparons les régimes, le régime cétogène. Sa vision est simple, riche en gras, faible en glucides, conçu pour mettre votre corps en cétose pour brûler un maximum de graisse. Les aliments autorisés, viande rouge, volaille, poisson, fruits de mer, légumes, noix et graines, graisse et huile. Aliments interdits, blé, farine, la majorité des fruits, sucre et édulcorants, céréales et féculents. La vue d'ensemble. Le régime cétogène est un régime riche en graisse et très, très, très faible en glucides qui fonctionne sur le principe qu'il faudrait manger des graisses pour brûler des graisses. À un large niveau, cela est basé sur le fait que le corps décompose principalement les glucides en glucose et utilise ce glucose comme source d'énergie principale par rapport aux graisses déjà stockées dans votre corps. Sachant cela, le régime cétogène vous encourage donc à éviter les glucides afin de pouvoir forcer votre corps à entrer dans un état de cétose. Comme nous l'avons vu, la cétose est un processus naturel où le corps commence à puiser dans ses réserves de graisse pour fournir l'énergie nécessaire à votre corps. C'est un peu comme si votre corps se disait
« Hey, mais où est passé tout le glucose? » Eh bien, je suppose que je vais simplement brûler la graisse qui est déjà stockée à la place.
Même si le tout semble bien beau sur papier, la réalité est bien différente. Malgré les histoires personnelles à succès, les études et les experts de la santé s'entendent pour dire qu'il s'agit probablement du régime le plus strict au monde, dont peu de personnes ont véritablement besoin pour arriver à leurs objectifs personnels. Bien que la perte de poids soit souvent impressionnante, il faut savoir que la majorité de ce poids perdu est source de votre masse maigre, donc une masse musculaire, et non de votre masse grasse, c'est-à-dire que vous perdez beaucoup plus souvent de l'eau et des protéines musculaires que votre graisse tenace. Cela engendrerait plusieurs complications, notamment sur votre métabolisme à long terme. Sachant que votre masse musculaire diminue, votre métabolisme diminue et sur votre santé compte tenu du grand manque d'équilibre dans ce régime. Voyons ensemble les objectifs nutritionnels. Par rapport aux glucides, l'objectif est d'éliminer presque complètement les glucides, pas plus de 5 à 10 % de votre apport calorique quotidien pour empêcher votre corps de produire du glucose. Cela est une étape capitale du cétogène. Dans le cas contraire, cela empêche la métabolisation des graisses et réduit la production d'insuline, ce qui vous ferait stocker encore plus de graisse. Les lipides. Les graisses représentent 60 à 75 % de vos calories quotidiennes, donnant à votre corps l'énergie dont il a besoin pour métaboliser et rester dans une zone constante de combustion des graisses. Et les protéines, le but est de consommer une bonne quantité de protéines, entre 20 à 25% de l'apport calorique quotidien, afin que votre corps puisse tenter de maintenir vos muscles, mais juste suffisamment afin de ne pas tomber hors de l'état de cétose. Voyons ensemble les aliments à éviter. Peu importe si vous mangez des glucides complexes ou des sucres simples, ces deux types de glucides se transforment en glucose dans le corps. Et oui, même le sucre des fruits est banni. Les personnes suivant un régime keto doivent éviter les aliments suivants. Le sucre, sous toutes ses formes, y compris le sucre de canne, l'agave, le sirop d'érable, la mélasse et le miel. Les céréales, le blé, le riz, donc pas de pain, craquelin, avoine, farine. Les légumes, féculents et tubercules comme les pommes de terre et les patates douces. Les lentilles, haricots, légumineuses, y compris les arachides et le soya. La plupart des fruits, à l'exception rare des fruits à faible indice glycémique, comme les baies par exemple. Et certains légumes riches en sucre comme les carottes, les pois, les tomates. Maintenant, regardons les aliments autorisés. Les aliments riches en matière grasse et en protéines sont abondants. Graisses animales telles que le beurre, le ghee, le saindoux, la graisse de canard et la mayonnaise. Graisses végétales naturelles, y compris l'huile d'avocat, l'huile de noix de coco et l'huile d'olive. Les viandes rouges, la volaille et surtout celles riches en matières grasses. Les fruits de mer, les poissons, les crustacés et en particulier les poissons gras. Les noix, les graines, le fromage, les édulcorants naturels tels que le stevia, les sucres d'alcool tels que le xylitol et l'érythritol, les légumes à faible teneur en sucre, particulièrement les légumes verts. Voici les bénéfices documentés du régime cétogène. Du point de vue neurologique, bonne réduction des crises d'épilepsie chez les enfants et les adultes, une amélioration cognitive à plusieurs égards, une amélioration des troubles neurodégénératifs dont l'Alzheimer et le Parkinson, et cela réduit les troubles bipolaires. D'un point de vue général, le régime cétogène facilite la perte de poids rapide, réduit les fringales alimentaires, réduit les niveaux d'insuline et réduit la consommation de sucre. Voici les problèmes envisagés avec le régime cétogène. D'un point de vue neurologique, nous avons des troubles de concentration et une humeur alternée. Du point de vue digestif, nous avons des troubles intestinaux tels que la diarrhée, le vomissement, les nausées, la constipation, des pierres aux reins, des déficiences nutritionnelles et un métabolisme minéral désordonné. D'un point de vue musculaire maintenant, on peut voir des crampes, des faiblesses musculaires et on peut également voir l'ostéoporose ou l'ostéopénie. Du point de vue hormonal, on peut constater de l'hypoglycémie, de l'irrégularité menstruelle et une perte de cheveux. D'un point de vue général, on peut constater de l'arythmie cardiaque, des infarctus du myocarde, de l'hypercholestérolémie et également des morts prématurées. Le régime cétogène convient pour les personnes qui désirent perdre du poids rapidement à court terme, même si la majorité de ce poids va provenir de l'eau, de vos muscles et de vos graisses. Ensuite, cela convient pour diminuer votre consommation de glucides radicalement, pour réduire vos taux d'insuline, pour améliorer votre situation mentale, notamment au niveau de l'Alzheimer et ou du Parkinson. Le régime cétogène ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent, aux enfants ou aux personnes âgées, aux personnes sous médication ou en post-chirurgie, aux anorexiques ou sous le chiffre de 20 à l'indice de masse corporelle, aux diabétiques de type 1, aux personnes souffrant d'un problème de thyroïde, aux personnes qui n'ont plus leur vésicule biliaire, aux personnes atteintes de sclérose en plaques, aux personnes qui ont des lésions rénales ou des pierres aux reins, et aux personnes ayant déjà des problèmes cardiaques, aux personnes ayant déjà des troubles digestifs, aux personnes qui recherchent un bon mode de vie à long terme et aux personnes qui recherchent un régime flexible. Dans le tableau comparatif, on peut constater que le cétogène n'améliore pas la santé globale, améliore la santé mentale, n'améliore pas la santé cardiaque, améliore la perte de poids, peut engendrer des déficits en nutriments, n'est pas un régime durable, n'est pas un régime facile et n'est pas un régime pour tous. Maintenant, regardons le jeûne intermittent. Sa vision est simple, il est seulement possible de manger pendant un certain nombre d'heures prédéterminées. Autrement, il est interdit de consommer des calories sous toutes ses formes, liquides ou solides. La particularité du jeûne, c'est qu'il n'est pas un régime, mais plutôt une façon de gérer la consommation de vos repas qui pourrait se combiner avec un régime pour engendrer davantage de résultats. La vue d'ensemble. Le jeûne intermittent et le régime cétogène partagent une grande ressemblance. Le cétogène se sert de sa limitation extrême dans les glucides pour parvenir à l'état de cétose, alors que le jeûne intermittent se sert de la privation d'aliments durant un certain nombre d'heures afin d'y parvenir. En fait, lorsque vous mangez un repas, votre corps consacre quelques heures à le traiter, brûlant tout ce qu'il peut avec ce que vous venez de consommer. Puisqu'il contient toute cette énergie facilement disponible et rapide à brûler, votre système choisira d'utiliser ce repas comme énergie plutôt que la graisse, par exemple, déjà stockée dans votre corps. Cependant, durant le jeûne, puisque vous n'avez pas récemment consommé de repas, votre corps devient plus susceptible à puiser votre graisse stockée car il s'agit de la seule source d'énergie disponible. En d'autres mots, c'est un avantage certain pour votre perte de gras. Voyons voir les objectifs nutritionnels. Par rapport aux glucides, selon les normes, 45 à 65% de vos calories quotidiennes devraient provenir des glucides. Si le jeûne n'est pas réalisé en combinaison avec un autre régime, vous devriez suivre ces proportions. Quant aux lipides, selon les directives diététiques, les graisses devraient contribuer de 20 à 35% de vos calories quotidiennes. Si le jeûne n'est pas réalisé en combinaison avec un autre régime, vous devriez suivre ces proportions. Quant aux protéines, l'apport nutritionnel recommandé est de 0,8 à 1,2 g de protéines par kilogramme de votre poids corporel. Vos exigences peuvent varier en fonction de vos objectifs en entraînement et de votre niveau d'activité physique au quotidien. Voici les différentes méthodes du jeûne. D'abord, il existe le jeûne 5-2. Cette méthode flexible du jeûne est populaire parmi les débutants. Dans cette méthode, vous pouvez manger normalement 5 jours par semaine. Pendant les 2 jours restants, vous devez limiter votre apport calorique quotidien à environ 500 calories. Il existe également le jeûne de 12 heures. Comme le jeûne 5-2, c'est une autre méthode de jeûne adaptée aux débutants. Évitez simplement de manger des calories pendant 12 heures. Mangez toutes vos calories dans les 12 prochaines heures. Cela termine un cycle de jeûne. Et finalement, il existe le jeûne 16 heures. Il s'agit de la forme la plus populaire. On peut dire que c'est une version étendue du jeûne de 12 heures. Vous n'êtes pas autorisé à manger durant 16 heures, puis vous mangez normalement dans la fenêtre des 8 heures restantes. Cela semble peut-être infernal, mais ce n'est pas si compliqué en pratique. Par exemple, vous mangez entre midi et 20 heures, puis jeûnez jusqu'au dîner le lendemain. Voici les aliments à éviter. Une erreur que les débutants font souvent est de manger n'importe quoi au cours de leur période de repas. Ils croient à tort que toutes les calories sont égales et que leur corps va brûler ce qu'ils mangent au cours du prochain jeûne. Bien sûr, votre corps brûle des calories et surtout des graisses pendant votre jeûne, mais pour de meilleurs résultats, vous devriez toujours faire attention à votre alimentation. Voici quelques aliments à éviter. D'abord, les aliments transformés. Les grains raffinés, les gras trans et les viandes transformées, les boissons sucrées et boissons alcoolisées et les friandises. Voici les bénéfices documentés du jeûne intermittent. Du point de vue neurologique, cela peut améliorer la concentration, la mémoire, la protection contre l'Alzheimer, la réduction des troubles bipolaires et la réduction de la démence. Du point de vue des maladies, le jeûne réduit les risques de développer le diabète de type 2. Cela pourrait vous protéger contre le cancer. Cela pourrait réduire votre inflammation et améliorer l'autophagie. D'un point de vue général, le jeûne pourrait améliorer votre durée de vie, améliorer votre perte de poids. Cela pourrait réduire vos fringales alimentaires et réduire vos niveaux d'insuline, en plus d'améliorer votre pression artérielle. Voici les problèmes envisagés par le jeûne intermittent. Du point de vue neurologique, on peut s'attendre à des maux de tête possibles et une humeur alternée. Du point de vue digestif, cela augmente l'acidité de l'estomac, augmente les pierres aux reins, on peut engendrer une déficience nutritionnelle et des nausées sont également possibles. D'un point de vue musculaire, il existe une controverse sur la sécurité de réaliser de l'exercice en performance durant les jeûnes. Et d'un point de vue général, le jeûne peut engendrer une réduction de votre énergie et on peut également constater des évanouissements possibles. Globalement, le jeûne intermittent convient pour perdre du gras rapidement, pour structurer votre routine alimentaire, pour améliorer votre santé mentale et physique, pour réduire votre inflammation générale et pour potentiellement prolonger votre durée de vie. Globalement, le jeûne intermittent ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent, aux enfants ou aux personnes âgées, aux personnes sous médication ou en post-chirurgie, aux diabétiques de type 1, aux personnes sensibles aux évanouissements et aux faiblesses, aux personnes souffrant d'insomnie ou de stress chronique, aux personnes ayant déjà des troubles digestifs, ainsi qu'aux personnes qui veulent développer leur masse musculaire. Selon notre tableau comparatif, on peut remarquer que le jeûne engendre une santé globale, améliore la santé mentale, améliore la santé cardiaque, améliore la perte de poids, peut engendrer quelques déficits en nutriments, est un régime durable, n'est pas un régime très facile et n'est pas un régime pour tous. Maintenant, attardons-nous au régime végé. Sa vision est très simple, défendre les droits des animaux et prioriser les aliments à base de plantes. Voici les aliments autorisés. Les fruits, légumes, noix et graines, haricots, légumineuses, céréales, lentilles, graisses végétales, alcool, sucre végétal et édulcorants. Et voici les aliments interdits, viande, poisson, fruits de mer, produits laitiers, œufs et miel. Voici la vue d'ensemble des régimes végés. Les personnes deviennent végétariennes pour de nombreuses raisons, évidemment. Certains le font pour des raisons éthiques, certains pour des raisons environnementales, certains en raison de l'impact mondial et d'autres pour des raisons de santé. Quelle que soit la raison, le végétarisme ou végétalisme est devenu un changement de style de vie populaire et les produits y sont de plus en plus disponibles dans notre société. Bien sûr, cela ne signifie pas que le fait d'être végétalien est automatiquement sain. Il y a encore beaucoup de malbouffe végétarienne et certains dépendent fortement des glucides pour se rassasier, ce qu'il faudrait tout de même éviter. Voici les objectifs nutritionnels. Les glucides constituent une grande partie de l'alimentation végétarienne sous forme de céréales, de riz, de lentilles et d'haricots. Les fruits et légumes contiennent aussi naturellement des glucides naturels, ce qui signifie que les végétariens ont tendance à absorber plus de glucides que tout autre régime. Concernant les lipides, les graisses peuvent être trouvées à partir d'aliments végétaux naturels comme les avocats, les olives, les noix de coco et les noix. Les végétariens les consomment très régulièrement. Concernant les protéines, ils peuvent facilement être trouvés dans de nombreuses sources végétales, y compris les noix, les céréales, certains légumes. Certains végétariens complètent leur alimentation même avec des poudres de protéines à base de soya, de pois ou de riz. Voici les aliments à éviter. En fonction du régime végétarien choisi, soit vegan, flexitarisme, lacto-végétarisme ou autre, les aliments permis seront évidemment très différents. Cependant, si on met les valeurs initiales du végétarisme au premier plan, tous les animaux et aliments provenant d'animaux ou transformés à l'aide de parties d'animaux devraient être évités, notamment la viande rouge, la volaille, les fruits de mer ou poissons, le lait, le fromage, les œufs, la gélatine, le miel et le bouillon de bœuf ou de poulet. Concernant les aliments autorisés, tous les aliments, cultures et produits à base de plantes sont fortement encouragés, tels que les fruits, légumes, grains tels que blé, céréales, riz, les légumineuses et lentilles, les haricots, graines de noix, les graisses et huiles végétales, le sucre de canne brut, les épices, herbes, assaisonnements naturels, les substituts de viande et de produits laitiers végétariens. L'une des questions que vous vous posez est certainement « Allez-vous vous ennuyer de la viande? » Voici trois conseils simples pour vous satisfaire et rester toujours souriant. D'abord, recherchez les saveurs. Si vous avez envie de viande, ce n'est probablement pas la chair animale qui vous manque. Vous recherchez probablement le résultat final, soit un repas gras, salé, assaisonné et riche en protéines. Vous pouvez également obtenir tout cela à partir d'aliments à base de plantes. Essayez des mets salés riches en protéines comme des champignons portobello sautés, des viandes végétariennes ou des noix mélangées salées. Ensuite, assurez-vous de manger assez de calories. Si vous avez souvent faim, vous ne mangez probablement pas assez de calories parce que les aliments à base de plantes ont moins de calories et moins de matière grasse que les produits d'origine animale. Il est donc nécessaire d'augmenter la quantité de nourriture que vous consommez. Les légumes seuls ne suffiront pas. Vous devrez inclure aussi beaucoup de céréales, de protéines et de matières grasses dont nous avons tous besoin pour être en bonne santé. En consommant suffisamment de calories, vous vous sentirez rassasié. Et finalement, optez pour des viandes à base de plantes. Vous recherchez un sandwich au poulet, une saucisse au petit déjeuner ou tout autre produit animal, il y a de grandes chances qu'il existe une version végétarienne. Boulettes de viande, bœuf haché, brochettes de poulet, poissons surgelés, le nombre d'alternatives à base de plantes a explosé ces dernières années. Tous les supermarchés en stock, quelle merveilleuse idée! Voici les bénéfices documentés par le végétarisme. Du point de vue neurologique, le végé peut améliorer la concentration, la mémoire et la fonction cognitive. Au point de vue des maladies, le végé réduit les risques de développer le diabète de type 2, pourrait vous protéger contre le cancer, améliore la santé du côlon et réduit les pierres aux reins. D'un point de vue général, le végé pourrait améliorer la durée de vie, réduit les risques de maladies cardiaques, améliore la perte de poids, améliore votre système immunitaire, améliore votre pression artérielle et est moralement éthique. Voici les problèmes envisagés par le végé. D'un point de vue neurologique, on peut constater de l'anxiété possible ainsi qu'une dépression possible. Au point de vue digestif, le VG peut engendrer une déficience nutritionnelle et nous sommes plus exposés aux pesticides malsains. D'un point de vue musculaire, il est important de s'assurer d'obtenir un nombre suffisant de protéines. Et de manière générale, manger végétarien ne signifie pas automatiquement bien manger. De plus, on peut constater des anémies possibles. Il y a également une controverse concernant ses avantages sur le microbiome, étant donné qu'il existe certains aliments à éviter. Globalement, le VG convient pour perdre du gras, réduire votre consommation de viande, améliorer votre santé mentale et physique, prévenir plusieurs maladies, défendre les droits des animaux et potentiellement prolonger votre vie. Toutefois, le VG ne convient pas aux personnes voulant manger des produits animaliers, aux personnes ayant déjà des troubles digestifs, aux personnes souffrant déjà d'anémie, aux personnes souffrant d'anxiété et aux personnes souffrant de dépression. Dans notre tableau comparatif, on peut remarquer que le VG améliore la santé globale, améliore la santé mentale, améliore la santé cardiaque, améliore la perte de poids, peut engendrer certains déficits en nutriments, est un régime durable, n'est pas un régime si simple, mais est un régime fait pour la majorité des personnes. Finalement, attardons-nous à l'alimentation microbiome. Sa vision est simple, sachant que la majorité des problèmes de santé, dont l'obésité, débutent par l'intestin. Il s'agit d'une alimentation complète qui met la priorité sur votre microbiome et votre santé intestinale. Voici une liste d'aliments autorisés. Les fruits et légumes sans féculents, les noix et graines, haricots, légumineuses, poissons et viandes, légumes fermentés, herbes et épices. Voici certains aliments interdits. Les aliments transformés, le sirop de maïs riche en fructose, des édulcorants artificiels, des gras trans et hydrogénés, les charcuteries riches en sel ou en graisse, tous les grains contenant du gluten. La vue d'ensemble de l'alimentation microbiome. L'alimentation microbiome est un mode de vie complet qui peut non seulement durer sur plusieurs semaines, mais sur toute une vie. Il s'agit de différentes phases à implanter dans son mode de vie. Cette alimentation est basée sur l'idée que manger de bons aliments aide à garder votre microbiome en bonne santé, ce qui est essentiel à votre santé globale. Cela améliore notamment votre digestion, réduit votre inflammation, qui est connue pour être un important élément déclencheur à plusieurs problèmes de santé, diminue votre anxiété et améliore même votre fonction cérébrale ainsi que votre humeur. Un équilibre sain de vos bactéries intestinales stimulera également votre métabolisme, éliminera vos fringales incontrôlables et vous aidera à perdre du gras rapidement et ce, en toute sécurité. Voici les aliments à éviter. D'abord, les aliments emballés. Les aliments emballés sont souvent remplis d'additifs, de colorants et de produits chimiques, sans parler du sucre et du sodium ajouté. Puisque les aliments emballés contiennent tant d'ingrédients qui peuvent être nocifs pour l'intestin, ils doivent être évités le plus possible. Ensuite, les céréales et le gluten. Les céréales, en particulier celles contenant du gluten, sont associées à une inflammation chez certaines personnes. Vous devriez alors éviter les céréales pour le moment avant d'en réintroduire quelques-unes sans gluten, comme le quinoa par exemple, un peu plus tard. Il existe également le sirop de maïs à haute teneur en fructose. En grande quantité, le sucre de toutes sortes est connu pour produire une réaction inflammatoire au corps. Cette inflammation est une cause profonde de troubles intestinaux, y compris le syndrome du côlon irritable et plusieurs autres. Il faut également faire attention aux édulcorants artificiels. Il a été démontré que les substituts de sucre ont des effets toxiques sur les bactéries intestinales. Le sucralose, l'aspartame, la saccharine et plusieurs autres se sont tous révélés avoir un impact négatif sur les bactéries intestinales. Il existe également les gras trans et huiles hydrogénées. Les gras trans artificiels et les graisses hydrogénées sont fabriqués en pompant des molécules d'hydrogène en huile végétale, ce qui transforme l'huile d'un liquide à température ambiante en un solide. Le Crisco, par exemple, est un produit hydrogéné. Ces types de graisses ont des influences très néfastes sur toutes sortes de maladies, y compris les maladies cardiaques, le diabète et l'arthrite. Les gras trans ont également un impact négatif sur les bactéries intestinales et peuvent engendrer une dysbiose, soit un dérèglement de votre intestin. Ensuite, il faudrait faire attention au maïs et aux pommes de terre. Il est vrai que les féculents peuvent avoir un impact sur la composition de votre microbiome intestinal. De nombreux amidons résistent à la digestion et peuvent entraîner une fermentation par les bactéries dans votre intestin. C'est pourquoi il est recommandé d'éviter initialement le maïs, les pommes de terre et autres fruits et légumes féculents. Finalement, il faut faire attention aux produits laitiers, sauf le beurre et le ghee. Les produits laitiers, ou plutôt le lactose, sont des irritants digestifs courants. Il est recommandé d'éviter les produits laitiers pour le moment avant de pouvoir en réintroduire certains comme du kéfir et des yogourts riches en probiotiques un petit peu plus tard. Maintenant, regardons les aliments autorisés dans l'alimentation microbiome. Les fruits et légumes non féculents. Dans l'alimentation microbiome, vous êtes encouragé à manger une quantité substantielle de baies, de légumes feuilles et d'autres produits non féculents, ce qui engendre une variété d'effets anti-inflammatoires et antioxydants sur le corps. Les fruits non féculents comprennent notamment les avocats, les cerises, les kiwis, les agrumes, la noix de coco et même les tomates. Les légumes non féculents comprennent par exemple les asperges, les artichauts, les oignons, les radis et les poireaux. Il faut également mettre l'emphase sur les protéines maigres. Presque toutes les sources de protéines animales sont autorisées dans l'alimentation microbiome. Vous serez encouragé à consommer de la viande nourrie à l'herbe et si jamais vous choisissez des viandes hachées, tentez d'avoir recours à celles contenant le moins de gras possible. Ensuite, nous misons également sur les poissons à faible teneur en mercure. Comme vous le savez, le mercure est toxique pour l'humain. Il est donc fortement recommandé d'éviter les poissons avec des niveaux élevés de mercure. Les poissons à faible teneur en mercure comprennent le saumon, la truite, le maquereau, le poisson-chat ainsi que les sardines. On met également l'emphase sur les noix et graines. À l'exception des arachides, qui sont en fait un type de légumineuse, vous pouvez profiter de toutes sortes de noix et graines et de beurre de noix sans sucre ajouté tout au long de l'alimentation microbiome. Les noix et les graines regorgent de graisses, de protéines et de fibres saines qui peuvent aider à réduire votre taux de cholestérol, à favoriser la perte de poids et à réduire votre inflammation. Finalement, on met également l'emphase sur les aliments prébiotiques et probiotiques, car ils constituent la base de l'alimentation microbiome. Les prébiotiques sont un type de fibre alimentaire qui fournit de la nourriture aux bactéries probiotiques. Les aliments riches en prébiotiques comprennent notamment les artichauts, les poireaux, les oignons, les feuilles de pissenlit et les asperges. Les aliments probiotiques comprennent le kombucha, la choucroute, les cornichons, le tempeh, le miso, le kéfir et le yogourt. Voici les bénéfices documentés par l'alimentation microbiome. D'un point de vue neurologique, le microbiome améliore la fonction cognitive, réduit l'anxiété, réduit la dépression, réduit l'épilepsie, réduit l'autisme, réduit le TDAH et les TOC, et réduit l'insomnie. D'un point de vue maladie, l'alimentation microbiome réduit les risques de développer le diabète de type 2, pourrait vous protéger contre le cancer, améliore la santé de votre côlon, réduit les pierres aux reins. D'un point de vue général, l'alimentation microbiome pourrait améliorer votre durée de vie, réduit les risques de maladies cardiaques, améliore votre perte de poids, améliore votre système immunitaire, améliore votre pression artérielle, réduit votre fatigue, même si elle est chronique, améliore votre humeur, réduit votre inflammation, réduit vos problèmes d'arthrite et réduit également vos problèmes de thyroïde. Voici les problèmes envisagés de l'alimentation microbiome. D'un point de vue neurologique, il n'y en a aucun. D'un point de vue digestif, aucun. D'un point de vue musculaire, aucun. Par contre, bien que le microbiome ait prouvé scientifiquement pour être crucial à notre santé globale, plus d'études doivent être réalisées sur des humains afin de solidifier davantage tous les bénéfices proposés. D'une manière générale, l'alimentation microbiome convient pour perdre du gras rapidement et à long terme, améliorer votre santé mentale et physique, prévenir plusieurs maladies, peut potentiellement prolonger votre vie, guérir votre intestin perméable qui peut engendrer évidemment de l'inflammation généralisée, des ballonnements, des sensibilités alimentaires, de la fatigue, des troubles digestifs, des problèmes de peau, des migraines, la fibromyalgie, l'hypo ou l'hyperthyroïdie, les sautes d'humeur, la dépression, l'anxiété et beaucoup d'autres. L'alimentation microbiome convient également pour les personnes qui ne veulent pas compter leurs calories, pour les personnes qui veulent manger à leur faim et pour les personnes qui aiment manger des produits variés, frais et santé. D'un point de vue général, l'alimentation microbiome ne convient simplement pas aux personnes qui souhaitent manger toujours les mêmes aliments. Dans notre tableau comparatif, on peut constater que l'alimentation microbiome améliore la santé globale, améliore la santé mentale, améliore la santé cardiaque, aide à votre perte de poids, n'engendre aucun déficit en nutriments, est un régime durable, est un régime facile et est un régime pour tous.